L'hébergement des migrants impacte l'hébergement des SDF. Et ceux qui ne veulent pas le voir laissent les clodos mourir dans la rue.
Les migrants, c'est devenu un problème. Ils occupent beaucoup de place dans les foyers où traditionnellement les SDF pouvaient trouver de la place.
On fait pour des clandestins ce qu'on n'a pas fait pour des SDF en France.
Avec le retour du froid et des hébergements d'urgence saturés, c'est également le retour du refrain selon lequel l'arrivée massive de migrants prive les SDF dits nationaux de place dans ces centres d'hébergement, que ces migrants seraient finalement mieux pris en charge que nos clochards, nos sans-abri que l'on laisserait mourir dans la rue. Ce qui se dit pour l'hébergement se retrouve également pour les transports qui seraient gratuits pour les migrants illégaux, pour les soins qui ne leur coûteraient rien. Bref, la France serait en somme une sorte de palace 4 étoiles pour les étrangers en situation irrégulière au détriment des miséreux d'origine nationale que l'on laisserait à leur misère. Bonjour Edouard Gardella.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, chercheur CNRS à l'école des hautes études en sciences sociales. Alors est-ce que les migrants sont mieux traités que les sans-abri ?
Non, pour deux raisons simples en fait. La première est que les services qui sont proposés, alors ce qu'on appelle les migrants, sont assez proches en fait, dans le meilleur des cas, que ceux qui sont proposés donc aux SDF, comme on dit, ou sans domicile. Dans le pire des cas, en fait, ils sont pires, en fait, en qualité. La seconde raison, c'est que ces populations ne sont pas si étanches que cela.
Justement, peut-être qu'il faut revenir et redéfinir de quoi on parle quand on parle de migrants, de quoi on parle quand on parle de SDF. Est-ce que ce sont des catégories qu'on peut mettre sur un pied d'égalité, qu'on peut comparer strictement ?
On ne peut pas les comparer, au sens où, en fait, aucune des deux catégories n'existe dans le droit. Quand on parle de migrants, déjà, on confond plusieurs choses. D'abord, les personnes qui sont immigrées, qui passent par les services de l'immigration, du ministère de l'Intérieur, qui demandent, voilà, un visa ou, en fait, un titre de séjour. Et ensuite, il y a les demandeurs d'asile. Et donc, souvent, quand on parle de migrants, en fait, on parle de demandeurs d'asile. Et donc, c'est ça qu'il faut spécifier. Donc, c'est ça la catégorie, en fait, officielle. C'est demandeurs d'asile. Et donc, ces personnes passent par un office qui est l'OFPRA, qui, en fait, attribue déjà le statut de demandeur d'asile ou pas. Et ensuite, statut sur la réussite ou l'échec de cette demande. Déjà, le terme de migrant mélange plusieurs choses. En face, donc, SDF, la catégorie n'existe pas non plus dans le droit, mais elles sont vues par l'État et la société, le monde associatif, comme exclues du logement. Donc, c'est l'INSEE qui a proposé une définition qui fait consensus globalement. C'est une personne qui, la veille de l'enquête donc de l'INSEE, a dormi soit dans un espace public, gare, parking, etc., soit un hébergement social. Ces deux populations ne se recoupent pas forcément, mais peuvent se recouper.
En fait, ce qui sous-tend cette idée reçue selon laquelle les SDF seraient moins bien traités que les migrants, c'est finalement une différence, une question liée à la nationalité. Alors, est-ce qu'il est vrai, Edouard Gardella, qu'on peut dire que les personnes miséreuses, sans-abri, de nationalité française, bénéficient de moins d'aide publique, sociale, que les étrangers en situation irrégulière?
Non, il faut s'appuyer sur des enquêtes. Ce qui permet vraiment de le préciser, donc c'est l'enquête de l'INSEE qui a été réalisée. Alors la première en 2001, la seconde en 2012. Les chercheurs et les statisticiens qui utilisent cette enquête permettent de montrer qu'il n'y a pas de meilleur traitement des personnes de nationalité étrangère que des personnes de nationalité française. Mais ce qui est manifestement clair, c'est que quand les personnes ont des enfants, elles ont plus facilement accès aux services d'hébergement.
Ce qu'on entend aussi beaucoup dire, c'est une question qui relèverait en quelque sorte du bon sens, c'est de dire, voilà, la période de froid arrive, du coup les hébergements d'urgence sont saturés, il y a des réfugiés en plus sur le territoire français, donc ça fait du monde en plus dans les hébergements d'urgence. Forcément, on héberge des réfugiés à la place de sans domicile fixe nationaux qui du coup se retrouvent exclus de ces réseaux d'hébergement d'urgence. Est-ce que c'est une réalité statistique ou pas, Edouard Gardella ?
C'est très difficile de répondre précisément. En revanche, ce qui est clair, c'est que l'État a une politique d'accueil des demandeurs d'asile, qui est donc légale par définition, et qui, en fait, a développé des services spécifiques pour les demandeurs d'asile, qu'on appelle les CADA, centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Il y en a d'autres aussi, hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, d'autres dispositifs comme les CAO, les centres d'accueil d'orientation. Il y a donc un nombre de places qui a augmenté, mais qui reste insuffisant. Les chiffres donnés par le rapport du Sénat pour la loi de finances, c'est environ 40 000 places de CADA en 2017. Si on ajoute les places en hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile et en CAO, et encore quelques places pour les réfugiés aussi, puisque les personnes parfois deviennent réfugiées, on a autour de 75 000 places. pour les statistiques données par l'OFPRA qu'en 2017, on atteint 100 000 demandeurs d'asile. Le mécanisme n'est pas immédiat, mais il se trouve que les personnes demandeuses d'asile qui n'ont pas accès en fait aux places réservées pour elles, eh bien doivent se débrouiller. Alors, pas toutes seules. Soit elles mobilisent leur réseau d'interconnaissance, donc elles vont chez des personnes, elles sont hébergées chez un tiers, comme on dit, soit elles sont orientées par le monde associatif de la lutte contre l'exclusion dans des hébergements d'urgence qui sont dits inconditionnels, donc auxquels elles ont droit.
Et justement, on a des chiffres pour ces hébergements d'urgence, on sait combien de places il y a de disponibles, on sait par ailleurs qu'ils sont aussi saturés, qu'il y ait ou non des demandeurs d'asile en plus, c'est qu'il y a de toute façon pas suffisamment de places.
C'est ça. Historiquement, en fait, on voit clairement que ce qu'on appelle le taux d'occupation de ces hébergements, en fait, est très très élevé, donc c'est autour de 100%, donc en fait, il n'y a pas de place. Et même quand le nombre de places augmente, c'est la crise du logement est telle que les places sont occupées en permanence. Même avant, il y avait un problème de manque de places en urgence. Donc ce n'est pas à cause de l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile qu'il y a un problème dans les hébergements d'urgence.
Quand Jean-Pierre Pernaut dit à un moment donné de son journal « Voilà, plus de place pour les sans-abri, mais les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France », c'est une vue biaisée.
On va dire que c'est un raccourci problématique. Pourquoi Jean-Pierre Pernaut dit ça? Et comment on arrive à poser la question? C'est que des personnes, en fait, voient sans doute ou lisent dans les journaux, ou donc regardent Jean-Pierre Pernaut et constatent qu'effectivement, il y a des personnes qui sont en hôtel, par exemple, voilà, dans des centres spécifiques pour demandeurs d'asile, et ils voient par ailleurs des personnes dans la rue. C'est les mêmes personnes qui sont dans les hôtels et dans la rue, mais enfin qui appartiennent donc au public des migrants. Et ensuite, en fait, il faut bien voir que il n'y a pas de concurrence immédiate. Donc, quand Jean-Pierre Pernaut dit ça, il y a un problème en fait de précision des termes et de définition de ce qu'il appelle migrants et sans-abri.
On entend souvent dire que les étrangers en situation irrégulière sont mieux soignés et gratuitement par rapport aux sans-abri ou aux sans-domicile fixe. Est-ce que c'est vrai, Edouard Gardella?
Bon, c'est faux. Il y a notamment l'association Le Comed hein, qui documente ça très précisément sur les demandeurs d'asile en fait qui ont des difficultés à accéder aux soins. Alors il y a la fameuse AME, l'aide médicale d'État. Donc voilà, les conditions d'accès ont été en fait durcies depuis quelques années. Avant, l'accès était très rapide. Maintenant, il faut justifier d'une présence sur le territoire de plusieurs mois, or qu'on a été débouté du droit d'asile ou qu'on est demandeur d'asile, il y a un problème parfois pour justifier, d'avoir des justifications de sa présence sur le territoire.
L'aide médicale d'État qui est réservée aux étrangers en situation irrégulière, aux personnes qui n'ont pas de papier.
Voilà.
Est-ce que, pour conclure, il y aurait une disparité sur le territoire, par exemple dans des territoires qui sont en tension face justement aux populations d'étrangers en situation irrégulière? On pense notamment à Calais ou dans le Nord, où finalement il y a plus d'efforts qui sont fournis par l'État et les collectivités territoriales pour traiter la situation de ces réfugiés ou ces demandes de ces personnes en situation irrégulière que des autres personnes qui ont des problèmes de logement.
Est-ce que Calais est une situation enviable pour des personnes qui sont dans des logements qui se posent la question? Évidemment que non. La réponse est que, en fait, face aux mutations géopolitiques et internationales qui ont lieu, la société française et l'État sont obligés de répondre pour respecter en fait les engagements qu'ils ont pris par rapport aux autres États, dans la Convention de Genève en 1951, et aussi par rapport à la morale qui est en fait présente dans la devise de l'État français, donc la fraternité. Fait partie en fait des engagements de l'État, donc en fait on ne peut pas ne rien faire face à des populations qui sont là.
Merci beaucoup Edouard Gardella, je rappelle que vous êtes sociologue, chercheur au CNRS à l'École des hautes études en sciences sociales. Merci beaucoup.
Merci.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.